parce qu'un peu plus loin, il y a le zoo de Saint-Félicien. C'est l'une des places qu'il ne faut pas manquer au lac Saint-Jean. Je ne sais pas si ça fait peu longtemps. Je ne sais pas si vous êtes allé visiter le zoo de Saint-Fé, mais je trouve que c'est vraiment intéressant le côté historique et des animaux qu'on découvrirait. Vous savez, pour moi, ça m'émerveille parce que je ne suis pas du lac Saint-Jean. Hein? Quand on est venu dans la région, on a réalisé qu'il y avait un accent dans la région différent. Jusqu'à ce qu'on nous dit que non, c'est moi qui ai l'accent différent parce que je viens pas du lac Saint-Jean. Alors, pour certains, ils peuvent dire que je viens de Montréal. J'ai grandi à Montréal. Pour moi, hein, les grands zones de jeu, c'était dans la ruelle ou sur le boulevard. On le faisait un petit peu quand il n'y avait pas d'auto. Fait que c'est un peu différent. Alors, on découvre hein, que grandir en région versus en grande ville, c'est des contextes différents. C'est autant au niveau pour la famille, la qualité de vie, mais aussi au niveau spirituel. Je trouve ça tellement intéressant parce que je suis venu à l'Évangile à l'âge de 16-17 ans environ. Et puis quand je suis venu à l'Évangile, je commençais à découvrir que finalement, il y avait plein d'églises autour de moi. Je n'avais jamais pris conscience parce que tu sais, des fois, on est habitué qu'une église, si c'est catholique, il y a un clocher, il y a pas de clocher, il n'y a pas une grande croix, il te manque des points de repère. Je trouvais ça drôle qu'en secondaire 4-5, j'allais toujours prendre un petit café ou étudier, d'affaire de même. Puis l'autre bord de la rue, je regardais, je tombais souvent dans l'une, puis par la vitre, mais c'est une église baptiste qui était là. Puis je ne le savais pas. Puis c'est en allant la visiter que j'ai découvert, j'ai dit, hey, j'allais prendre mon café devant. Eh bien, je suis venu donc à l'Évangile vers 15-16 ans, déménager à Couronne-Nord, hein, en région éloignée de Montréal, à Terrebonne. Hein, pour ceux qui connaissent, c'est 20 minutes, c'est pas. Mais pour un Montréalais, c'est loin, c'est dépaysant, c'est déracinant. On a découvert mon épouse, on a été à l'école biblique Bethel ensemble, on a appris à se connaître sans intérêt nécessairement. Et finalement, j'ai marié la fille de mon pasteur. Hein? Position stratégique qu'on pourrait dire nullement. C'était vraiment une joie. Donc, Louis Bourque, qui est le papa de Catherine. On est mariés depuis 14 ans et quelques mois. Toujours un petit stress de me tromper de date, là, puis qu'elle me regarde. Là. Merci, j'ai réussi. Alors, depuis déjà 14 ans et quelques, commencé le ministère en formation à temps plein il y a 12 ans à l'église de Terrebonne-Mascouche. Aujourd'hui, ça s'appelle l'église Assistée. Une église d'environ 500 personnes. La jeunesse était comme 120 à l'époque. C'était une réalité que pour moi, c'était ça une grandeur d'église normale. Hein? On compare toujours avec ce qu'on a en soi. On était plusieurs ouvriers à temps plein avec une équipe de 7-8 anciens sur le conseil, puis chacun des spécialistes. Puis moi, c'était ma spécialité, c'était l'évangélisation, faire des disciples. Jamais je vais enseigner dimanche matin parce que j'ai pas ce don-là. Ça arrivera jamais. Seigneur, hein, des fois, il y a d'autres plans. Jamais, hein, je suis tellement pourri en anglais. J'étais technicien en architecture. Je visitais les techniciens en architecture j'étais représentant sur la route. Je visitais les bureaux d'architectes au Québec. Le côté ouest de l'île était la zone la plus horrible de mon travail dans tout le Québec parce qu'ils ne parlaient pas français dans les bureaux. Puis là, il fallait que je me débrouille avec des termes que j'apprenais par cœur, mais pose-moi pas trop de questions parce que là, je vais être mal pris. Et le Seigneur nous a envoyés dans l'ouest de l'île de Montréal, servir dans une église française, dans un contexte anglophone, multiethnique à fond, que souvent les gens arrivent, parlent portugais, ils parlent espagnol, et là, il faut parler l'anglais, l'intermédiaire. Hein? Fait que quand on parlait d'arriver du Mexique et que là, c'est d'apprendre le français, bien, je comprends le défi là, et de réussir à googler. Le temps a passé de plus en plus, et je servais comme pasteur associé dans l'ouest de l'île. Une église moyenne d'autour de 250 personnes. Et de voir que pour me rendre à mon église à 10 minutes, je traverse deux églises. De voir que je côtoie des gens puis qui assistent à trois églises différentes le mercredi soir à telle église. Le dimanche matin, s'ils arrivent en retard, ça va à telle église. Mais si tu es à l'heure en avance, tu vas à l'autre église en fonction des heures. Tu te dis, waouh, il y a de quoi qui ne marche pas. Puis d'entendre de l'autre côté. Et pour moi, ça a été le Seigneur qui a mis clairement un poids, vraiment un fardeau dans notre cœur, puis en parlant dans le couple aussi. C'est de voir, par exemple, sur le long du fleuve, hein, dans le bas du fleuve, le défi à Rimouski, à Rivière-du-Loup. Rimouski, une église baptiste qui fermait, qui devenait un groupe maison. À Rivière-du-Loup, qui avait plus d'ouvriers avec Hugo Étier, qui se retirait, puis que là, il y avait un besoin, puis que les églises commencent à fermer dans le bas du fleuve. Puis il dit, attends une minute. À Montréal, c'est une église ferme, il y a une tristesse, mais tu as quatre autres églises prêtes à 15-20 minutes ou 40 minutes de trafic, là, ça dépend à quelle heure. Mais le dimanche matin, pas de trafic. Mais de voir l'importance du rayonnement, que si l'église, par exemple, de Saint-Félicien ferme, mais on ne parle pas d'un 5 minutes de marche, il y a un défi qui est présent. De voir à Rimouski, de voir les régions du Québec avec la distance et l'importance de chacun de ces flambeaux de l'Évangile dans ces régions. Et ça a été de plus en plus clair dans notre cœur de voir qu'il faut avancer avec une question de foi. On ne sait pas comment, on ne sait pas où. On a cherché la volonté du Seigneur, on a prié pour savoir est-ce que c'est pour nous utiliser pour former peut-être des gens à envoyer dans les régions puis développer des relations, ou peut-être que le Seigneur veut nous envoyer directement. Et progressivement, on était avec l'ABEC dans le tordeur d'évaluation pour voir, bon, avec les dons, le contexte. Puis la conviction était évidente, autant dans l'équipe que dans notre propre vie, que le Seigneur nous envoyait à une place en région. Puis on ignorait c'était où. Alors, on est parti en vacances au BIC, hein, près de Rimouski, Parc national. Puis certains, je ne sais pas, vous connaissez ce secteur-là. Et on commence les vacances, puis on dit, Seigneur, où est-ce que tu nous veux? Où est-ce que tu veux nous envoyer? Puis on commence les vacances à ce niveau-là. Puis je reçois un coup de fil de Jean-Philippe Lapierre. Puis qui me dit, hey, je rencontre un conseil d'église à Alma. Est-ce que je peux donner ton nom? Je dis, ben oui, nous, on cherche la volonté du Seigneur, donc on va voir la suite des choses. Puis en recrachant, qu'est-ce que je fais? Je Google. C'est où Alma? Aucune idée c'était où. Je connaissais Chicoutimi parce que pour le travail, j'y allais, mais tout le reste du lac Saint-Jean. Et là, d'étudier le contexte de la région, de voir ce qui se passe avec Chicoutimi, Jonquière, Alma, Saint-Félicien, ça m'enflammait l'excitation. Excitation d'apprendre à connaître ce que le Seigneur est en train de faire. Excitation de voir ce que le Seigneur nous prévoit dans nos églises accomplir dans le par la suite. Et concours de circonstances, 2 ans et demi, 1 mois et demi de plus que Jonathan dans la région du lac Saint-Jean. Alors, on verra qui va durer le plus longtemps. Hein? Hein? Alors, c'est vraiment une joie d'être ici. Mais je prends conscience que le défi est tellement différent par la réalité de l'isolement. Hein? Des fois, on peut se sentir seul. Des fois, on entend des choses et nous, qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? Et il peut y avoir une fatigue qui en découle. Je suis vraiment excité d'apporter la parole aujourd'hui et ça va amener un peu dans cette optique de la joie de servir notre Seigneur dans la réalité et le contexte qu'on se retrouve présentement. Ma fonction a changé un petit peu. Je me suis retiré, j'étais membre du conseil d'administration de l'association puis du séminaire, puis je suis en train de me retirer de ces responsabilités pour vraiment m'investir. Puis il y a vraiment une joie puis de voir ce que le Seigneur est en train de faire dans une soif d'en apprendre un pas de plus. Et on a lancé des cours, des petites formations, puis on va en avoir de plus en plus, puis de voir l'excitation qui s'emballe avec l'église de Saint-Félicien, de Chicoutimi, de Jonquière, d'Alma, et de vivre de quoi ensemble. Et que des fois, on est isolé, mais on se connaît, on s'aime, mais comment qu'on peut s'émerveiller par ce que Dieu est en train d'accomplir dans notre vie, dans notre réalité à nous. Et j'aimerais prendre ce temps, et je ne sais pas si le PowerPoint va apparaître. Déjà à Paris. Servir Dieu, hein, dans notre réalité, ma nouvelle raison d'être. Et pour moi, ça, je trouve ça important parce que vous savez, dans mon changement de ministère, il y a comme une contradiction. Hein? Généralement, on veut comme, que ce soit pour l'aspect professionnel, on veut monter les échelons. Hein? Qui veut, après avoir étudié des années, diminuer d'échelon de plus en plus? Espérer d'avoir un salaire de plus en plus petit. Espérer de diminuer dans les éléments. Puis la question qu'on m'a posée, c'est, mais il y a une contradiction. Généralement, les gens veulent aller dans les grandes villes. Pourquoi aller en région? Comme si que l'assistance d'une église détermine, hein, la valeur. Comme si qu'une église de 20, 15 personnes a moins de valeur d'une église de 500 ou de 5 000 ou 20 000. On va regarder aux États-Unis ou dans d'autres pays avec les méga churches. On a plein de raisons en regardant autour de nous pour nous décourager. Mais lorsqu'on redirige notre regard à la bonne place, on a plein de raisons pour s'exciter et avoir cette joie de servir Dieu dans notre réalité. De Saint-Félicien Roberval, ou Saint-Prime d'Olbeau, ou Alma. Et on a fait une série il y a quelques mois, puis ici, c'était comme l'introduction. En réalité, je l'ai enseigné il y a quelques mois sur les ministères, tu sais, puis les opportunités de service, puis tout ça. Puis finalement, je dis, attends une minute, il faut remettre des fondements, il faut parler des dons spirituels avant, tu sais, pas juste des tâches, des fonctions. Puis attends une minute, avant de parler des dons spirituels, il faut revenir sur la raison d'être. Et là, je reculais. Puis là, j'étais rendu dans le Nouveau Testament, puis là, Éphésiens, c'est excellent. Attends une minute, on va aller dans Corinthiens. Attends une minute, on va reculer dans les Actes. Attends une minute, on va reculer dans les Évangiles avec le ministère de Jésus. Puis je dis, attends une minute, ça part bien avant ça. Puis là, je suis rendu dans l'Ancien Testament, là, avant de me rendre jusqu'à Genèse. Ah, j'ai arrêté à Malachie. Puis dans Malachie, ce que je découvre d'une façon impressionnante, c'est sa pertinence pour nous aujourd'hui qui vivons l'Évangile. On dirait que c'était écrit pour nous à Saint-Fé. On dirait que le message du petit prophète ici là, est en train d'adresser une problématique puis des mensonges et des pièges qu'on peut tomber encore aujourd'hui. Que j'ai 40 ans de vie chrétienne, 99 ans de vie chrétienne ou 6 mois de vie chrétienne, c'est la pertinence pour chacun d'entre nous. Et j'aimerais tourner ensemble dans ce petit livre de Malachie et de réfléchir dans notre service pour le Seigneur en fonction de notre nouvelle raison d'être. Voilà, je l'ai mis à l'écran aussi, vous n'avez pas votre Bible, il n'y a aucun problème. Super, on voit bien. Mini-section, Malachie 3, versets 13 à 18. Puis, je vous encourage naturellement, c'est toujours le fun de lire plus, mais là, on se retient, on s'arrête une mini-section. Mais lisez Malachie au complet ou lisez le chapitre 3, vous allez voir, là, il y a une richesse, une soif qui va nous émerveiller de ce que le prophète est en train d'aborder ici. Dans les versets 13 à 18, on va se concentrer ici, qui nous dit donc, versets 13 à 18 dans Malachie chapitre 3, « Vos paroles sont rudes contre moi, dit l'Éternel. » Et vous dites, qu'avons-nous dit contre toi? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner, à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant, nous estimons heureux les hautains. Oui, les méchants prospèrent. Oui, ils tentent Dieu et ils échappent. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux. Et comme un homme a compassion de son fils qui le sert, vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Wow, hein? Ce section-là a pour moi deux éléments. Il y a un côté lourd, mais il y a un côté joyeux. Et la réalité que Malachie est en train d'adresser est une réalité que je trouve qui connecte avec notre propre réalité. On voit Malachie ici qui vient parler au peuple d'Israël et qui sont découragés, qu'ils ont vécu et ont été certains témoins ou entendu parler de choses et de grandiose avec une excitation. Mais ils se trouvent aujourd'hui dans le découragement. Pourquoi continuer? Pourquoi payer le prix encore? À quoi ça sert? Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé dans votre propre vie d'être découragé à servir Dieu. Découragé dimanche après dimanche. Découragé de le peu de fruits que ça peut produire. Découragé peut-être à travers des critiques. À travers des échecs. À travers la comparaison. Regardez sur Internet les méga-churches, certains connaissent John MacArthur, avec la grande église, le grand prédicateur. Puis vous êtes pogné avec un petit gars, Benoît, d'Alma, qui vient de Montréal, c'est même pas un vrai de la région. Évangélisé. Mais ça porte pas de fruits comme on aurait attendu à l'époque. Les fameuses croisades de Billy Graham, les grands réveils spirituels et tous les efforts qui porte pas de fruits. C'est tellement décourageant. Pourquoi continuer? Hey, c'est lourd, hein? Mais il y a un côté qui est important. Il faut parler des vraies choses, puis faire ressortir. Et l'idée ici, c'est que le peuple d'Israël est tombé dans un piège que souvent, je tombe moi-même. Tout va bien et je suis excité. Mais quand ça ne va pas bien, est-ce que mon excitation continue? Est-ce que je perds ma joie? Est-ce que je deviens amer? On découvre dans cette réalité-là dans le peuple d'Israël, et on va le voir ensemble, l'importance de le remettre sur la bonne fondation. Et ici, le premier point, hein, l'exercice de nos dons. Servir Dieu, c'est pour la gloire de Dieu. Amen. On est tous d'accord avec ça. J'espère qu'il n'y a personne qui va dire « Je m'y oppose! » Maintenant, ça mange quoi en hiver pour la gloire de Dieu? Ça, c'est la vraie question qu'il faut se poser. L'exercice, servir Dieu, c'est pour sa gloire. C'est pour la gloire de notre Dieu céleste. Mais ultimement, on a besoin de se rappeler ces fondations de ce que ça veut représenter dans ma vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Et ici, dans le peuple d'Israël, ce que je trouve super intéressant, c'est qu'on voit que les épreuves ont été une occasion pour mettre en lumière ce qui était caché dans les motivations. On le remet dans la perspective. Dans le peuple d'Israël, hein, puis des fois on regarde en arrière et on dit « ils sont tellement durs de comprenure, hein. Voyons donc, c'était tellement évident. Pourquoi tu tombes encore là-dedans? Pourquoi tu doutes encore de Dieu? » Ici, on voit, hein, après la restauration, il y a la période de Zérobabel, d'Agé, de Zacharie, hein, à travers la construction du temple, le retour de la diaspora, puis l'excitation de dire on revient, et puis on va être témoin, hein, de l'établissement du royaume de Dieu. On a été dispersés, et là, Dieu va nous utiliser, puis on va être témoin de sa royauté, de sa suprématie, et les nations, ils vont en baver. Puis qu'est-ce qui se passe? Une période de silence. Imaginez, hein, l'excitation des gens qui reviennent progressivement, qui restent, qui persévèrent à rester malgré la dispersion. Puis il y a un temps de silence. Non seulement ça, ils regardent autour d'eux, puis ceux qui se moquent de Dieu puis qui se fichent de Dieu, ils prospèrent. Ils réussissent. Hey! J'ai payé un prix. Puis je vois ceux qui s'en fichent de Dieu, puis ils réussissent. Et là, on entend ce qui était caché se révéler. Pourquoi ça vaudrait la peine de continuer d'abord? Vouloir servir Dieu pour sa gloire, c'est dangereux de perdre de perspective notre destination. Vous savez, hein, ça me fait penser, hein, pour la gloire de Dieu, ça veut dire de conserver notre regard vers la destination où nous allons. Et pour moi, ça a été évident, je donne un exemple, lorsque ma femme allait elle accouchait, puis j'allais, moi, en congé de paternité. Et là, ma tâche pendant quelques semaines, c'était de pouvoir libérer ma femme des fonctions, des tâches, du ménage, de tout ça. Elle s'occupait du bébé, puis moi, je faisais les réformes de la maison. Le grand ménage, mon cabanon, mon ci, mon ça, la cuisine. OK, je ne touche pas à la cuisine, c'est compris, je vais laisser son système. Mais je touchais, puis je modifiais les choses. Puis c'était satisfaisant de pouvoir voir la façon dont mon cabanon était tout dans l'envers. Et là, deux jours après, il est beau puis propre. Jour qui avance à chaque fois. Et là, bébé numéro 3 arrive. Bébé numéro 4, pataclor! Je descends pour faire le ménage du sous-sol. C'est propre, je suis satisfait. Je monte en haut, j'attends du bruit. Je descends en bas, tout est à l'envers. Il y a tout défait ce que j'ai fait pendant une journée de ménage. Et là, c'est la colère. Puis je retourne travailler, je perds mon temps ici. J'ai perdu toute joie. Et ma raison d'être un allègement pour mon épouse vient de prendre le bord. Et là, je suis négatif. Là, je suis critique. Mon enfant mérite. Tu défais mon travail. perdu de place, cette perspective. Mais ici, lorsqu'on regarde le présent, on regarde les embûches, on perd notre joie. C'est une fatalité. Parce qu'on va voir les gens autour de nous prospérer. On va voir le méchant qui va réussir. On va voir les enfants faire le désordre derrière nous. Notre destination, notre regard est appelé pour où est-ce que nous allons pour l'éternité. Et si on oublie de cette perspective, on va regarder toutes les embûches du présent. Et comme on le voyait versets 14 et 15, vous avez dit, hein, peuple d'Israël, puis on le voit plus tôt dans Malachie, « C'est en vain qu'on sert Dieu. Qu'avons-nous à gagner, à observer ses préceptes, à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? On estime maintenant heureux les hautains. Le méchant prospère. Il tente Dieu, puis il réussit à s'échapper de ça. » Cette réalité ici, le jour que nous arrêtons puis qu'on observe toutes les embûches du présent, la comparaison, on va perdre notre joie. Ici, dans ma compréhension de la gloire de Dieu, mon regard se redirige vers l'éternité et que Dieu prend plaisir dans mon état présent à me voir le servir. Et que ma compréhension, c'est que le petit désordre, là, c'est pour un temps, ils vont vieillir. On me dit toujours, oui, mais quand ils vont être ados, inquiète-toi pas, ils ne voudront plus sortir des chambres. Hey, j'espère que non. Mais il y a des périodes, puis il y a des saisons de vie. Il y a des périodes, puis si tu t'arrêtes à cet élément-là, tu perds toute ta joie. Puis j'avais plus envie de faire aucun ménage dans la maison. Mais à un moment donné, hein, qu'est-ce qui arrive après 2-3 semaines, là? C'est comme, chérie, s'il te plaît, viens m'aider. C'est notre réalité dans notre propre vie, dans notre service dans l'Église locale. De conserver notre regard vers où nous allons. Notre joie ne repose pas sur ce qui se passe présentement. Tu dis, OK, je suis d'accord avec ça dans l'éternité, mais maintenant, comment je vis ça? Comment ça se vit? Puis certains vont dire, oui, mais regarde, tu ne comprends pas. J'ai 85 ans. Ou j'ai 123 ans. Je n'ai plus l'énergie d'avant. Puis je voudrais servir le Seigneur, mais j'y arrive plus. Et dans cette réalité de la gloire de Dieu, c'est naturellement avec notre regard vers notre destination, mais aussi en fonction de notre rôle présentement. Puis ça ici, cet élément-là est important en fonction de notre rôle présentement. Dans la saison de vie que tu te retrouves aujourd'hui. Une image, c'est, vous savez, hein, on aspire tous avec les âges à travers le travail à plusieurs années. Un jour, on aimerait être à la retraite ou un jour, on a déjà été à la retraite. Puis c'est à quel âge de la retraite? C'est intéressant, je lisais ça par curiosité. Hein? Chaque pays a différents objectifs. Certains, c'est 70 ans, d'autres, c'est 65 ans. En France, il y a des manifestations puisqu'ils veulent passer de 62 à 64 ans, je pense, quelque chose comme ça. Hein, nous, c'est peut-être 60 ans. Là, il y a des livres qui disent « Liberté 55 ». Là, j'ai vu un livre, 40 ans! Je suis là, wow! J'approche la retraite! Non, j'ai pas l'argent pour, on continue. Mais vous savez, l'idée, l'excitation de l'âge de la retraite, de pouvoir faire quoi à la retraite? Arrêter de travailler, hein? C'est comme cette excitation-là. D'enfin, j'ai assez donné. Je peux me reposer. On va dire, hein, tu peux enfin penser à toi. Fais ce que tu désires, que tu ne pouvais pas avant. Certains vont dire, je vais pouvoir servir plus Dieu. Mais tu réalises que finalement, la retraite, hein, c'est-tu vraiment si congé que ça? La plupart des témoignages sont plus occupés qu'avant. C'est juste différent. Hein, prendre soin des enfants, des petits-enfants, les projets qu'on n'a pas réussi à faire, des rénovations, on veut explorer, aller dans le sud. Où il y a comme toutes ces choses-là, puis les besoins de ci, de ça. On réalise peut-être que notre épouse avait une liste non dite qui est finalement « Enfin, tu prends la retraite, voici les choses à accomplir. » Il y a toutes ces réalités que finalement, eh bien, est-ce que ici dans ton identité, dans la saison de vie que tu te retrouves, on découvre que finalement, hein, la retraite peut être vue comme le point de arrêt total. Et que là, on parle de servir Dieu. Oui, mais j'ai pas assez, j'ai assez donné. Je laisse au prochain. De l'autre côté, hein, Peut-être que tu es avec la culpabilité de dire « je suis pas capable de donner plus ». Je pense à mon épouse, avec les enfants, la saison de vie, hein, avec plein de petites marmettes. Oublie ça, je suis pas capable. Et là, je lutte avec la culpabilité. Je lutte avec les attentes qu'il y a des besoins dans l'Église, puis je peux pas répondre à ces besoins-là parce que je suis en mode survie. Je suis cerné par-dessus les cernes. Et dans ce point-là, pour la gloire de Dieu, en fonction de notre rôle, on découvre que Dieu veut nous utiliser, mais en même temps, il n'a pas besoin de nous. Il y a une contradiction, hein, que vous voyez ici. Il désire t'utiliser, mais il n'a pas besoin de toi. Pas besoin de moi, alors qu'est-ce qu'on entend? Ça veut dire « Yes, je peux prendre ma retraite puis arrêter, j'ai assez donné. » Mais il veut t'utiliser. On le voit ici, dans cette tension. Par exemple, Actes 17, versets 24 à 28. « Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite point dans des temples faits des mains des hommes. Il n'est point servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses, il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui, nous avons la vie, le mouvement et l'être. » On découvre cette réalité, puis dans l'ensemble des Écritures, c'est que Dieu est en parfait contrôle. Dieu est en parfait contrôle de la situation. Dieu est en parfait contrôle de l'Église de Saint-Félicien. Est-ce qu'on le croit vraiment? Il est en parfait contrôle de nos vies. Il est en parfait contrôle du Québec. Tu dis, mais attends une minute, là. T'as pas attendu les positions politiques, t'as pas attendu les décisions qui se font, t'as manqué la COVID, hein, il y a des choses que t'as pas manqué. Dieu est en parfait contrôle. Il n'a pas besoin de nous. C'est un peu dérangeant, mais il y a une tension qu'on va ramener par la suite. Mais ce qu'il est en train de dire, c'est que sa volonté va s'accomplir. Sa gloire va toujours resplendir. Il va toujours avoir le dernier mot. Tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des choses qui ne fonctionnent pas, tu vas avoir de l'opposition, puis Dieu le sait, Dieu le voyait, Dieu le savait déjà d'avance, et sa volonté ne va jamais être contrecarrée. Il y a un côté, donc, qu'il est en train de dire, c'est que, tandis que je pourrais peut-être prendre un besoin, puis que me l'approprier, puis que ça va donner un lourd fardeau. Peut-être qu'il y a un lourd fardeau que je fais pour servir le Seigneur, mais ce n'est pas ce que le Seigneur t'a confié. Ce n'est pas ce que Dieu attendait de toi. Et que peut-être que ma perte de joie ne repose pas sur le manque de fruits, mais repose sur une attente de servir Dieu que Dieu ne m'avait jamais transmise. Servir pour la gloire de Dieu, c'est en fonction de ce que le rôle de chacun d'entre nous, Dieu nous a confié, dans les saisons de vie. C'est en train de dire ici que si la santé physique ne te le permet plus, tu n'as pas à vivre dans la honte et la culpabilité. Vivre à 30 ans, là, c'est différent d'à 65 ans. Moi, je réalise qu'à 20 ans, je faisais deux nuits blanches d'affilée puis je pouvais repartir sans problème. Premier enfant, ça allait bien. Deuxième enfant, ça va bien. Troisième enfant, j'ai besoin de 48 heures pour m'en remettre d'une nuit blanche. Puis il se réveille encore, je suis en train de mourir. Puis je dis, ouais, mais attends, il est rendu à 60 ans, tu vas voir que c'est encore plus rough. L'énergie diminue. Le rythme de servir le Seigneur puis de vivre l'Évangile dans la façon de faire doit s'adapter en fonction de ce que Dieu nous a confié. Ça ne change pas notre identité. Ça ne change pas la souveraineté de Dieu. Et ce qu'on pourrait dire d'abord, c'est est-ce que je peux prendre ma retraite spirituelle? Je peux arrêter de le servir d'abord. Mais il y a une tension que Dieu n'a pas besoin de toi. Et Dieu prend plaisir à t'utiliser dans la saison de vie que tu te retrouves aujourd'hui, à travers ton contexte et ta réalité. De mieux en mieux à servir le Seigneur pour sa gloire, dans le rôle dans lequel il m'a confié, dans la saison de vie que je me retrouve, dans mon contexte et ma réalité à moi. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 58 nous dit « Ainsi, mes frères bien-aimés et sœurs bien-aimées, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. » Vous savez, ici, je m'étais dit que jamais je servirai dans la prédication parce que ce n'est pas mon don puis ça n'arrivera jamais. Puis j'ai servi dans d'autres fonctions, dans des saisons, dans les 15 dernières années. Et je me souviens d'une des choses, pourquoi? C'est qu'à un moment donné, il y a environ un peu moins de 20 ans, j'avais amené un message dans un groupe jeunesse. Je sortais de Bethel, j'étais dans Bethel, tout fleu, tout flamme. Puis il n'y avait pas de prédicateur, puis il dit « moi, je vais le faire ». Puis je me lève, puis j'apporte la parole. Puis les gens avaient aimé ça. Puis il y a quelqu'un qui est venu me voir à la fin, puis il a dit « merci pour ce que tu as apporté ». C'est juste arrêter le fun que ça soit en rapport avec le passage de ce qu'il disait. J'avais prêché de quoi de super intéressant, mais le passage qu'il avait pris n'avait pas rapport avec ce que je disais. Complètement hors contexte. J'ai été humilié à moi-même, là. Mon organe a pris un coup. Puis ce que je me suis dit, c'est quoi? Plus jamais je vais enseigner. C'est fini. Quelle belle fausse humilité. Puis il y a des saisons de vie, puis il y a une œuvre que le Seigneur va faire dans notre vie. Puis il veut nous rappeler que c'est lui qui va opérer ça. Il veut accomplir de quoi de beau à travers nos limites, à travers nos échecs. Et d'y aller de mieux en mieux, un pas de plus. Cette tension de dire, il a pas besoin de toi, mais il prend plaisir à t'utiliser et il faut le prendre au sérieux. Et laisser cette œuvre pour sa gloire, c'est de ne pas le prendre à la légère. On célèbre notre Dieu céleste. Que ce soit des fois dans l'évangélisation, que ce soit dans le ministère d'accueil, que ce soit à travers l'école du dimanche, que ce soit pour nettoyer le tapis le dimanche matin, puis personne ne le voit, puis tout ce que tu vois, c'est la saleté qui se réaccumule le dimanche après-midi. Dans ces occasions d'avoir de la joie dans nos capacités, dans notre saison, avec ce que Dieu nous a confié. Cette tension ici, donc, de prendre plaisir à célébrer Dieu à travers où est-ce que je me retrouve aujourd'hui. Ce n'est pas une question, donc, de quantité de gens dans une église. Des fois, on cherche le plus grand prédicateur, puis j'ai tellement aimé un théologien qui a dit probablement que le plus grand prédicateur présentement vivant, là, c'est qui? On ne le sait pas. Il est sûrement dans une petite église, dans une région éloignée, puis le Seigneur est en train de l'utiliser pour édifier un secteur. Hein, le plus grand évangéliste, eh bien, il y en a certains qu'on entend parler, mais ce n'est pas une question de grandeur. C'est une question d'avoir de la joie à glorifier Dieu dans ce qu'il nous a confié à nous. Et parfois, on va vouloir faire l'œuvre qui appartient à Dieu. Et c'est cette tension-là d'être dans la joie dans ce qu'il nous confie et non ce qu'on s'approprie par nous-mêmes. Et John Piper, je ne sais pas si vous le connaissez, j'aime bien, il a dit, je vais le citer puis je vais l'expliquer par la suite, « Les besoins de Dieu ne peuvent pas être comblés de toute l'aide qu'on peut lui apporter. Ce serait comme si un ruisseau essayait de remplir la source qu'il nourrit. » C'est intéressant, hein? Dieu qui déverse ses dons. Dieu qui est à l'œuvre dans toute la création et qui est en train d'opérer. Puis que nous, on dirait « Moi, je vais le faire, je vais y arriver, là. » On va changer le monde, puis là, je mets de la pression, ça va passer vite. Allez, il faut aller plus vite, il faut aller plus dans le champ, il faut plus de ci, il faut plus de paroles, il faut plus d'enseignement de profondeur. Puis là, on met de la pression, puis on brasse toutes les choses. Puis on essaie de comme rediriger la source vers le haut, au lieu d'avoir de la joie et notre zèle à être fidèle dans ce que Dieu nous a confié. C'est ce que Malachie est en train d'adresser dans le peuple d'Israël. Et c'est cette même réalité qu'on découvre dans le ministère de Jésus, avec les apôtres, dans les épîtres écrits, puis encore dans notre vie aujourd'hui, de ce que le Saint-Esprit veut nous convaincre, puis nous encourager pour nous à Saint-Félicien. L'importance de la joie en fonction de notre rôle, que ce que Dieu nous a confié. Et, naturellement, en comprenant notre raison d'être. Notre raison d'être. Dans ce passage que j'aimais beaucoup, là, dans un acte 17, c'est lui qui donne le souffle de vie. Dieu nous a donné à chacun d'entre nous le souffle de vie. Mais c'est lui qui la reprend aussi. C'est lui qui a déterminé le moment de fin pour chacun d'entre nous. Puis si on parlait de retraite tantôt, moi j'ai un plan pour mes 96 prochaines années, là. Mais en même temps, peut-être que tout va être chamboulé dans un an, dans 6 mois. Peut-être qu'en revenant, mon beau-père disait qu'il espérait mourir en prêchant l'Évangile à la chair en avant. J'imaginais l'Église traumatisée. Mais il y a des choses qu'on ne contrôle pas, on n'a aucune idée. On n'a aucune idée de la fin. Mais de se rappeler dans notre adoration le pourquoi je vis aujourd'hui. Dieu nous donne le souffle de vie encore. Il ne l'a pas repris. Même si notre énergie diminue, il prend plaisir à nous utiliser. On a une valeur à ses yeux. On a une valeur dans son plan pour nous. Puis vous savez, hein, toutes les Disney puis tout ça, il aime ça, élever ça d'une façon disproportionnée. Vous savez, il y a toujours comme un petit gars ou une petite fille dans un village perdu, puis que les dieux sont mal pris, puis qu'ils vont aller le chercher pour sauver le dieu. Je pense à Moana, par exemple, hein, qui est une petite fille dans une île isolée. Je ne sais pas si vous avez déjà écouté, vous avez des enfants peut-être, hein, Moana ou autre, là. Et que là, un pouvoir lui est transféré, puis là, il va pouvoir sauver le dieu, puis pouvoir vaincre, je résume l'histoire, là. Mais finalement, ils réussissent toujours à gagner, puis tout le monde est content, puis la paix sur la terre a été établie grâce à cet enfant élu des dieux. Puis il dit, hey, moi, je suis chrétien, un élu de Dieu. Puis il y a tellement de prédicateurs, de vidéos pour élever la puissance que Dieu t'a donnée et que tu as une autorité sur toute domination. Et là, on est en train d'avoir un rôle qui ne nous appartient pas. Et là, on va voir les échecs. On va perdre notre joie parce qu'on avait perdu, qu'en voulant adorer Dieu, on avait perdu notre raison d'être. C'est fondamental. Notre raison d'être en fonction de pourquoi il nous a créés, pourquoi il nous donne le souffle de vie et qu'il ne l'a pas repris encore. Ça veut donc dire que même si j'ai 95 ans, Dieu veut encore m'utiliser. Mais pas de la même façon qu'il y a 5 ans, il y a 10 ans, il y a 20 ans. Comment je peux glorifier Dieu dans ma raison d'être aujourd'hui? Quand j'ai les yeux cernés avec triple cerne de maman ou de papa, quand que je fais 95 heures semaine ou que je suis à la retraite, c'est différent. Mais notre raison d'être ne change pas. C'est pour la gloire du Seigneur. Servir Dieu, c'est bien plus que juste un nom sur une liste de ministères. C'est notre raison d'être de le servir dans notre identité en lui, en le glorifiant, en ayant la joie. Ça va nous amener qu'à travers les difficultés, les plaintes, notre suffisance ou nos manquements, notre joie ne sera pas affectée. Notre joie va se maintenir. Et le peuple d'Israël, ici, on les voit, puis c'est tellement intéressant. Parce que ce qu'on découvre, là, dans la période avant Néhémie, et il y a eu un retour, il y a eu une réforme, il y a eu un zèle, il y a eu un service consacré. Puis les fruits n'ont pas été visibles. Il y a eu une déception, une amertume, un découragement, un refroidissement. Et dans le ministère hein, de Esdras, Néhémie, on découvre marier avec d'autres personnes, avoir abandonné leur femme pour marier d'autres peuples, une banalisation de l'offrande, de la générosité. Il y avait 5-6 critères établis que le cœur n'était plus là du tout. Et là, il y a une grande réforme. Et là, ça pleure. Et là, ça se repent. Puis qu'est-ce qu'on découvre par la suite, 400 ans plus tard, dans la venue de notre Sauveur Seigneur Jésus-Christ, avec la mise en table de Malachie, puis qu'on voit toute la suite qui en découle, tu aurais les voir pieux, zélés, joyeux, sont tombés encore une fois dans deux tangentes qu'on découvre dans la période des Évangiles, un engourdissement spirituel et une religiosité extrême. Deux extrêmes qu'on découvre. Et Jésus va confronter le pharisianisme. Et c'est encore les mêmes pièges qu'on est encore une fois en train de lutter à tomber de notre propre façon. C'est donc, ici, là, pour la gloire de Dieu, c'est de le servir par la grâce de Dieu. Servir Dieu, ce n'est pas un lourd fardeau du fer. Hein, souvent, on dit « il faut ». Ce n'est pas ça. Saisir la grâce de Dieu et qui se déverse par la suite. Dans notre vie, dans nos relations, dans l'Église. Souvent, c'est un indicateur quand que j'ai plus de joie à servir qu'il faut s'arrêter puis se poser la question, le pourquoi. Est-ce que je suis en train de faire ce que Dieu me confie ou je réponds à des attentes, la pression des autres? Est-ce que j'ai perdu la joie parce que les fruits ne sont pas ce que Dieu s'attendait, mais ce que moi je désirais? Et ce que je trouve incroyable, c'est que dans Malachie, à travers la réprimande, le passage clé, le thème clé dans Malachie, c'est le Malachie chapitre 1, verset 2, qui nous dit « Je vous ai aimé, dit l'Éternel. » Wow! « Je vous ai aimé. » À quoi bon servir? On ne voit pas les fruits. À quoi ça sert? Parce que je t'aime. Je prends plaisir à t'utiliser. Tu n'as pas grand-chose à m'apporter. Ce n'est pas ça la question. C'est une œuvre de grâce que Dieu veut accomplir dans cette église, dans cette famille, dans cette vie. Les dons spirituels, hein, il y a deux termes utilisés dans les dons spirituels, puis il y a l'aspect don spirituel pour l'aspect de la spiritualité, de l'œuvre du Saint-Esprit, de ce que Dieu est en train d'accomplir dans la Trinité. Mais aussi, c'est intéressant, hein, le charismata en grec, qu'on pourrait dire un don de grâce. Servir avec nos dons spirituels, c'est servir à travers nos dons de grâce. Une grâce que Dieu a déversée dans l'Église. La grâce de Dieu qui se manifeste quand on se sert les uns les autres. La grâce de Dieu qui se vit à travers notre faiblesse. Ce n'est pas une question de puissance. Ce n'est pas une question de domination. C'est une grâce. Et vous savez, des fois, on essaie de contrôler les choses. On essaie de contrôler le temps, la vitesse. Puis j'aimais beaucoup dans l'illustration, hein, vous savez, la source d'eau, comme Piper dirait, là, qui coule, puis qu'on est le ruisseau, puis tu essaies d'aller dans l'autre sens. Mais le danger aussi, c'est de chercher à le contrôler. Puis qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre un barrage dans notre vie. Puis c'est comme ça que ça doit fonctionner. L'œuvre de Dieu va-tu être arrêtée? Il va soit détruire ce barrage-là, ou qu'est-ce que ça fait l'eau? Ça va faire un autre chemin. J'aime cette illustration, c'est l'œuvre de Dieu qu'il veut accomplir. Puis il veut le faire dans notre vie. Puis nous, soit qu'on va essayer de garder notre regard, de chercher puis de s'approprier cette grâce pour nous et de la déverser dans nos relations ou de s'endurcir, comme ce que dans Malachie est en train d'adresser. Puis on va créer des barrages. Mais Dieu, il est pas mal pris. Il va passer quand même. À travers notre faiblesse, Dieu veut nous utiliser. On découvre notre place. Et ça nous émerveille de sa grâce pour nous. Et ça s'expérimente dans nos relations. Dans la saison de vie, je pense à M. Ledoux ici. C'était le trésorier à l'époque de notre église dans l'ouest de l'île. Un monsieur âgé. Il avait son entreprise. C'est un homme, là, il était allumé. Tous les chiffres, les ci, les ça. Hein, puis il suivait méticuleusement chacun des petits détails. Puis là, à la fin, il n'était plus capable de suivre. Mais il restait encore le secrétaire de l'église. Puis les réunions annuelles, c'est lui qui prenait les notes. Il y avait une secrétaire aussi à côté de lui qui prenait les vraies notes pour tous les détails, parce qu'il n'était pas capable de suivre. Mais dans son cœur, il voulait continuer. On faisait les rencontres, puis des fois, on parlait d'un sujet, puis là, on arrêtait tout le monde. Toute l'assemblée arrêtait. 150 personnes en pause, parce qu'il voulait finir sa phrase. C'était beau de voir. Puis d'un côté, quand je suis arrivé, puis j'étais là, tu sais, le jeune, là, puis je disais, pourquoi on ne le tasse pas, puis qu'on va plus vite? Non! Dans la saison de vie, dans la joie de le servir, de le voir servir le Seigneur, de servir les uns les autres, on expérimente la grâce, comme que Dieu a déversé cette grâce dans notre vie. C'était beau à voir finalement. C'était un bel apprentissage pour moi. À notre église, présentement, la personne de l'accueil n'est pas membre de l'église, ça vient depuis peu, Puis même certains disent, mais ils devraient être membres, on ne peut pas faire l'accueil. Mais il y a tellement de la joie de saluer les gens. Puis il perd en faculté. Il perd en mémoire. Et il répète la même chose. Tu vas le saluer la première fois, vous allez à l'église allemande, il va vous dire quelque chose. Vous venez la semaine d'après, il va vous dire exactement la même chose. Puis à chaque semaine, il vous dit exactement la même chose. Puis certains disent, oh, c'est pas bon pour l'accueil, on devrait le mettre plus loin. Non, on le veut là. Il a la joie de servir le Seigneur. Ça déborde. Puis une autre personne à côté. Puis si la personne ne comprend pas ce qui se passe, elle va dire, correct, viens avec moi. De servir dans notre saison de vie. Parce que l'œuvre de Dieu est plus grande que l'œuvre que je désire dans mon cœur. Il va utiliser des choses folles de ce monde. Il veut utiliser des choses qu'il ne comprend pas. Et ce qu'il est en train de dire, c'est que dans l'église de Saint-Félicien, on peut dire, hey, on est juste une trentaine, on est juste une vingtaine, on est juste... On n'a pas de grande équipe de louanges, de chorale. Hein? Je suis allé à l'église de John MacArthur, il était comme 75 à chanter dans la chorale, c'était fou braque. Puis nous, hein, c'est-tu décourageant? Dieu prend plaisir de nous utiliser pour rayonner dans notre région. Notre fidélité à laisser Dieu se glorifier. Notre joie d'avancer dans ce qu'il a préparé pour nous. Ça va nous apporter à avoir ces réponses que les Juifs ne comprenaient pas à cette période-là. Que nous, on va se poser encore jour après jour. Et là, j'avance. C'est tout cet acte d'adoration, puis je termine dans ce volet-là. C'est qu'ultimement, ça va transformer que je vais servir Dieu pas pour répondre à un besoin, pas pour changer les nations. Ça appartient à Dieu. C'est parce que j'adore notre Papa Céleste. J'ai la joie d'adorer Dieu. J'ai l'honneur d'un être pécheur, limité, avec la liste de choses pourquoi je ne mérite pas. Je peux élever et dire, « Seigneur, tu m'utilises, puis je ne comprends pas. » Ça va changer qu'à travers les échecs, je peux célébrer Dieu. Vous savez, des fois, je fais une prédication, puis c'est pourri, puis je suis découragé. Puis j'ai passé trop vite, puis j'ai passé à côté du point gauche. Puis qu'une personne vient me voir, puis est en larmes, puis dit, c'est ça que j'avais besoin un matin. Le passage, exactement ce que Dieu avait besoin de révéler dans ma vie. Puis tu dis, wow! Tu as utilisé une affaire pourrie, puis c'est glorifié. Et je loue le Seigneur. Amen à ça! De mieux en mieux, dans notre joie, à y laisser la place qui lui revient, à lui laisser dans fonction de notre rôle, de notre saison de vie. Au-delà du dimanche matin, servir Dieu, c'est dans toutes les facettes. Et ce qui est intéressant, c'est que on découvre dans l'Église de Corinthiens, puis dans cette réalité-là, c'est qu'on tombait dans d'autres pièges. On cherchait les dons les plus visibles, les plus apparents. Puis encore, qu'est-ce qui va revenir pour reprendre? Ce n'est pas une question de performance. Ce n'est pas une question de ce qui est le plus visible. Même dans 1 Corinthiens 13, verset 13, dans la section 13, 14, 12, 13, 14, tout dans cette dans la continuité dans l'Église de Corinthe, tout ce qui est, hein, maintenant, 1 Corinthiens 13, 13, dans ces trois choses qui demeurent, que la foi, l'espérance et la charité demeurent. Mais la plus grande chose, c'est quoi? La charité. Servir Dieu, glorifier Dieu, persévérer ensemble à rayonner dans notre contexte à travers l'amour de Dieu déversé dans notre vie et qu'elle déverse à son tour dans notre réalité, dans notre contexte. J'aimerais prendre ce temps pour qu'on puisse prier, qu'on puisse réfléchir, mais la place dans notre propre vie. Est-ce que je suis tombé dans le découragement? Est-ce qu'il y a un lourd fardeau qui pèse sur mes épaules, mais qui finalement appartenait à Dieu? Est-ce quelque chose que j'ai besoin de lui remettre? Est-ce que j'ai jeté la serviette et que j'ai pris la retraite spirituelle trop vite? La bonne nouvelle, là, c'est qu'il n'est pas trop tard. La bonne nouvelle, c'est que même s'il y a des lourds fardeaux, puis il y a des hontes, puis que j'ai des échecs dans ma vie, l'œuvre de la grâce de Dieu est en train de dire que c'est correct, mon œuvre n'est pas terminée. Et je veux continuer à t'utiliser. C'est par sa grâce seule et c'est pour sa gloire seule. Prions. Oui. Oui. Je l'ai ici. Je pense que je l'ai skippé. Hein? Attends une minute. Ah, je ne l'ai pas mis. 1 Corinthiens 13, 13. Ah non, c'est ici. Ah, j'ai marqué un. Pourquoi j'ai marqué un? Voyons. Laisse-moi voir. Ah, ça! Excuse-moi. Pardon. On va prier après. On va prier. Seigneur Dieu, je te remercie. Merci parce que, à travers tout ce que je peux voir dans mes lentilles à moi, c'est facile de tomber dans des pièges, dans le découragement, dans la remise en question, dans le doute. Et ce qui est incroyable, c'est que tu les vois. Tu vois tout à quel point c'est pathétique dans mon cœur, ces remises en question, ces découragements. C'est incroyable parce que tu les vois et tu le savais d'avance et tu m'as choisi volontairement, avec joie. Non pour ce que je pouvais t'apporter, mais pour ce que tu allais accomplir dans notre vie. C'est incroyable que tu prends plaisir à prendre des êtres pécheurs comme nous sommes et que tu prends plaisir à vouloir faire ce ménage. Doucement. Tu n'utilises pas la masse. Ce serait tellement plus rapide et plus simple, me semble, de nous écraser. Mais on voit cette grandeur de cet amour, de cette grâce déversée à la croix, mais qui se vit encore aujourd'hui. Seigneur Dieu, que nous puissions avoir ce zèle, cette joie de te servir en fonction de ce que tu nous as confié. Pas en fonction des besoins de pression des autres autour de nous, de ce qui a plus de valeur à nos yeux. Dans la simplicité de te faire la place qui te revient dans notre vie. Seigneur Dieu, quelle occasion qu'on peut avoir encore aujourd'hui de chercher tes voies, de te célébrer, de reconnaître que cette Église se maintient et c'est grâce à toi. Et que nous n'avons pas à banaliser mais à prendre au sérieux cet amour pour nous et notre place à te laisser diriger nos vies. Seigneur Dieu, je te prie pour un réveil. Je te prie pour un réveil dans cette église, dans l'église d'Alma, de Chicoutimi, de Jonquière, dans les églises du Québec. On voit la dureté du cœur, on voit le refroidissement, on voit les générations qui perdent de perspective. On voit les jeunesses qui diminuent jour en jour, dans les dernières années. L'Évangile qui ne se transmet pas. Viens à notre secours. On ne veut pas perdre ce zèle et on veut dépendre de toi. J'ai hâte de voir ce que tu as réservé pour cette Église. J'ai hâte de voir les prochaines années. Je célèbre ce que tu as accompli dans l'Église de Saint-Félicien dans les années avant. Tu es le même Dieu que tu es en train de faire de quoi aujourd'hui? Puis de te préparer quelque chose pour demain. Seigneur Dieu, je veux être témoin de ça. Garde-moi près de toi. Garde-nous près de toi. Pour être dans la joie jusqu'au moment où que tu viendras nous chercher. Tu gardes un registre. Tu connais nos découragements. Tu connais nos mensonges. Et on veut venir les déposer auprès de toi et te faire confiance. Prends nos vies, prends nos familles, prends cette église, glorifie-toi. Amen. Amen. Merci.